présentation de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour et bienvenue à l'écoute du nouveau programme en français de Radio Prague, littérature, cours de tchèque et opéra dans notre émission. On commence tout de suite avec de la littérature dans la nouvelle édition de Culture sans frontières. Vous allez entendre la deuxième partie de l'interview que Magdalena Rosinkova a réalisée avec la romancière française Catherine Cusset, venue récemment à Prague pour présenter son roman « Un brillant avenir ». Cette fois-ci, Catherine Cusset nous parlera entre autres de son entrée en littérature liée à un chagrin d'amour, de sa peur d'être un faux écrivain, de l'Amérique qui a influencé sa vie et son écriture, ou encore du sourire des Tchèques.
Culture sans frontières. Magdalena Rosinkova.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle rubrique culturelle dans laquelle je reçois Catherine Cusset, romancière française installée à New York et venue récemment à Prague, ville qu'elle connaît bien pour y avoir vécu pendant 2 ans. Catherine Cusset est auteure d'une dizaine de romans, dont Un brillant avenir qui vient de paraître en tchèque. C'est un roman sur la difficulté de l'émigration et aussi sur une relation délicate entre l'héroïne roumaine du livre, Hélène, et sa belle-fille française, Marie. La relation belle-mère-belle-fille est finalement peu explorée en littérature. Catherine Cusset.
C'est un sujet comique et moi, mon livre, je l'ai pas traité de façon comique. J'en ai fait ce que j'estime être un sujet littéraire. Mais je crois que c'est très typique de mon écriture. Je m'intéresse à ce dont on ne parle pas. Et dans beaucoup de mes livres, il y a un livre sur la sexualité, un de mes livres, mais ça c'est pas un sujet comique, mais où je vais vraiment au fond des choses, et je parle de choses dont on parle très peu, par exemple comme de la masturbation. C'est pas un sujet dont on parle vraiment dans les livres de femmes, surtout. Mais j'ai aussi abordé des sujets, la haine de la famille, c'est un livre qui est drôle, mais qui va vraiment au fond du rapport mère-fille sur 3 générations. Et mon livre, Confession d'une radine, je sais même pas si on peut traduire en tchèque, c'est aussi un sujet parfaitement comique, comme la belle-mère, le radin, l'avare, celui qui veut pas donner son argent. Et moi, si j'ai écrit ce livre, Confession d'une radine, c'est parce que je déteste la radinerie et en même temps, je sens en moi une difficulté parfois à m'ouvrir à l'autre et à donner.
À un moment donné, dans Un brillant avenir, Hélène dit que ce qu'elle a trouvé merveilleux après son arrivée aux États-Unis, c'était l'air conditionné partout dans les restaurants. Pour vous, pourquoi vous aimez vivre aux États-Unis?
Alors justement, pas à cause de la climatisation, ça c'est un des sujets, le premier sujet de discorde
entre
Hélène et Marie, c'est vraiment là où Hélène pour la première fois rencontre cette Française et surprise de la différence, puisque pour elle, oui, en effet, l'air climatisé, c'est le confort américain, la Française, elle entre dans le restaurant climatisé, elle dit « Ah, quelle horreur, encore un restaurant climatisé, c'est épouvantable !» Hélène ne comprend pas comment c'est possible de ne pas aimer la climatisation. Alors, qu'est-ce que moi j'ai aimé en Amérique ? L'ouverture, la facilité du rencontre avec la rencontre avec l'autre. Enfin, surtout quand je suis allée en Amérique, j'avais 23 ans. Je suis allée enseigner le français à l'université de Yale. Et je venais de France où j'étais dans une très grande école, puisque j'étais à l'école normale supérieure. Et j'avais le sentiment en France que ma vie était finie, enfin, que j'allais me marier, faire des enfants, devenir professeur, et que ça y est, j'avais 23 ans, et que tout était déjà joué, qu'il n'y avait plus aucune possibilité de rien de nouveau. Mm-hmm. Et quand je suis arrivée en Amérique, j'ai découvert que 23 ans, c'était très très jeune, qu'on n'était pas du tout, on n'avait pas du tout fini sa vie à 23 ans, et que c'était très jeune, et qu'on pouvait sans arrêt, qu'il suffisait de tendre la main à quelqu'un, et de dire « Hi, I'm Catherine, and who are you ?» et que cette personne allait vous répondre, et qu'on pouvait juste comme ça rencontrer les gens. Et ça m'a paru incroyable. Et c'est une facilité qu'offre l'Amérique. Donc je suis quand même assez mal, bien sûr, j'ai évidemment des ambivalences et des critiques très fortes de l'Amérique et de la civilisation américaine. Mais quand même, j'ai vraiment profité, joui de cette ouverture américaine.
Donc si la France est un pays extrêmement ouvert par rapport à la Roumanie, la Tchéquie et la République tchèque, ou l'ancienne Tchécoslovaquie, les États-Unis sont encore plus ouverts que la France.
Alors attention, parce que c'est compliqué, hein, chaque pays a ses valeurs. L'Amérique, elle a certainement... Il y a aussi tout un puritanisme et une hypocrisie américaine. Hein, donc derrière le sourire se cache aussi... En tout cas, le sourire est là. C'est important, le sourire.
Ce qui n'est pas du tout le cas en Tchécoslovaquie.
Ah, je vais vous dire quelque chose. En effet, le sourire est peu présent en République tchèque. J'y ai vécu donc 2 ans et demi. Et pendant 2 ans, je n'ai pas tellement vu le sourire des Tchèques. Surtout que j'étais une étrangère, je parlais pas bien de tchèque. Voilà, donc je voyais pas beaucoup le sourire des Tchèques. Et puis, mes derniers 6 mois, 7 mois en République tchèque, j'étais enceinte. Hotna, et j'ai vu le sourire des Tchèques. Tous les Tchèques se sont mis à me sourire. C'était extraordinaire et j'ai découvert en fait la gentillesse des Tchèques. Peut-être que le fait d'être enceinte a dépassé le fait d'être étrangère.
Vous avez publié votre premier roman à 27 ans, si je ne me trompe pas, et vous écrivez depuis quand en fait? Comment c'est venu cette envie d'écrire?
Je pourrais dire depuis toujours, parce que quand j'étais petite, j'écrivais, et je crois que je voulais déjà être écrivain très très tôt, simplement parce que j'ai été très très tôt une grande lectrice. J'ai toujours adoré lire et toujours eu besoin, énormément besoin de lire. Et encore aujourd'hui, il y a des écrivains qui ne lisent pas, hein, qui n'ont aucune envie de lire. Moi, je suis un écrivain qui lit. Et j'écris d'ailleurs parce que je lis peut-être, parce que j'aime tellement la lecture, et j'ai tellement besoin de ce monde parallèle, tellement besoin d'un bon livre. Bon, si c'est pas un bon livre, ça me déprime. Mais c'est ma compagnie essentielle, celle des livres. Et alors en même temps, j'écrivais quand j'étais très jeune, mais j'ai fait des études littéraires très poussées en France. La préparation de l'école normale supérieure, une agrégation de lettres classiques, j'ai fait 2 thèses. Et donc pendant des années, je dirais entre 17 et 25 ans, donc pendant 7 ans de ma vie, j'ai eu aucune possibilité d'écrire. D'abord parce que je travaillais tout le temps pour mes études, et puis aussi parce que toutes ces études littéraires très poussées avaient... tari mon imagination, l'avait desséché. Je voyais même pas comment c'était possible d'écrire de la fiction ou d'écrire quelque chose de personnel. Ça me semblait impossible. Et puis, à 25 ans, j'ai eu un très gros chagrin d'amour. Donc, un homme m'a quitté, m'a abandonné. C'était de ma faute aussi. Enfin, c'était en tout cas une passion avec un très grand chagrin d'amour. Et pour faire face à cette passion qui m'a quand même à ce chagrin qui m'a donné envie de mourir, j'ai commencé à écrire un roman, mais pas un journal, hein, un roman. C'est-à-dire que j'ai tout de suite transformé cette matière très douloureuse en une matière romanesque, ce qui m'a permis, avec des personnages, avec une histoire un peu différente de la mienne, ce qui m'a permis de reprendre le contrôle sur quelque chose sur quoi j'avais aucun contrôle. Et le cadeau que m'a fait la fiction, c'est qu'après avoir écrit ce roman d'amour qui a été mon premier roman, j'ai retrouvé l'homme, le méchant qui m'avait abandonné, et je l'ai épousé. Qu'il faut écrire.
Et est-ce que pour publier un premier livre, il faut d'abord surmonter sa timidité, il y a des écrivains qui disent que c'est le plus difficile en fait de publier pour la première fois.
Il y a toutes sortes d'étapes dans l'écriture et la publication. Déjà, il faut écrire, ensuite terminer l'écriture. Être capable de se corriger, de corriger, ensuite envoyer à des éditeurs, ensuite vous franchissez le barrage, vous trouvez un éditeur, la publication, il y a toutes ces étapes, hein, donc à chaque fois c'est une nouvelle étape. Moi j'ai eu de la chance dans les premières étapes, c'est-à-dire qu'après avoir fini le livre, je l'ai envoyé à un écrivain et éditeur français très connu qui s'appelle Philippe Solers, que je connaissais parce que j'étais spécialiste du XVIIIe siècle dans mes études universitaires. Et j'avais écrit des articles sur le marquis de Sade et sur Voltaire. Et je les avais envoyés à Philippe Solers, qui les avait publiés dans sa revue L'Infini et qui m'avait rencontré. Et il m'avait dit, si un jour vous écrivez un roman, envoyez-le-moi. Moi, j'écrivais pas de roman à l'époque. Mais quand j'ai écrit mon roman après mon chagrin d'amour, j'ai dit, tiens, je vais l'envoyer à Philippe Solers. Mais lui, c'était un auteur qui avait la réputation d'être très libertin, vous savez, d'avoir une philosophie comme ça, dans laquelle il y avait beaucoup de séduction et pas de dépression. Et donc, quand j'ai envoyé mon livre, qui était pour moi un roman de passion, je pensais qu'il n'allait vraiment pas du tout l'aimer. Et en fait, il l'a adoré et il l'a publié dans sa collection L'Infini, chez Gallimard, qui était un très bon endroit où commencer à publier. Mais le livre, quand il a paru, donc le livre a paru en mai 90, donc j'avais 27 ans, Et ça, c'est voilà, ça c'est là où j'ai, la souffrance a été très grande. Donc j'attends quand même la sortie de mon livre que j'ai écrit un an et demi plus tôt. Le livre paraît, il sort, ça y est, il est dehors. Personne n'en parle. C'est comme si personne ne le voyait. Il est entièrement ignoré. Il sort et rien ne se passe. Pas une interview, pas un article, rien, rien, zéro. C'est comme si je n'existais pas. Oh, ça, j'ai mis du temps à m'en remettre. J'ai beaucoup souffert. J'ai pensé, ben voilà, je sais pas, Solaire, ça a aimé mon livre, mais lui, il se trompe. En fait, je suis pas un écrivain, je suis complètement nulle. Voilà, donc j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre.
Et vous l'avez surmonté à quel moment, cet état?
J'ai mis plusieurs années, hein. C'est-à-dire que j'ai mis plusieurs années. Et j'ai écrit ensuite deux livres, un qui m'a aidé, un qui a eu un effet thérapeutique, qui m'a aidé à surmonter cette crise, parce que j'ai écrit sur un roman, mais à partir de mon rapport avec Philippe Solers, parce que j'avais très peur de sa vision du monde, que je sentais très différente de la mienne, cette vision de jouissance. Et j'ai écrit un livre sur ça, c'est mon roman qui s'appelle « À vous », qui m'a libérée de lui, qui m'a libérée de sa vision du monde, qui m'a permis d'être en contact avec moi-même et de plus avoir peur. Et donc après avoir écrit ce livre-là, j'ai réussi à écrire un livre sans rapport avec lui. Et d'une certaine manière, c'est mon premier roman, même si c'est le troisième que j'écris, le deuxième qui a été publié, qui s'appelle « En toute innocence », qui est sorti chez Gallimard en 95, donc 5 ans après le premier, « La blouse roumaine ». Et c'est sans doute, d'une certaine manière, mon premier livre. D'ailleurs, c'est toujours un de mes livres préférés, vous voyez 15-16 ans après, c'est un des livres où je crois j'ai été le plus libre. Les critiques, tout le monde en a parlé à l'époque. C'est un livre qui a été très fort, qui a été reçu. Et là, j'ai eu ma sortie. Vous voyez, au deuxième livre, c'est ça à écrire, malheureusement. On n'écrit pas juste pour soi, quoi. Si on n'est pas lu...
On définit votre écriture comme minimaliste, comme directe, visuelle, incisive. Pour moi, ça se lit très bien. Pour moi, vous écrivez comme si de rien n'était. Est-ce que cette facilité dans l'écriture, c'est quelque chose qui est spontané, qui est automatique pour vous ou,
Oui, c'est en effet, j'ai une écriture qu'on pourrait dire presque américaine comme ça. Ce qui m'importe le plus, bon, à la fois c'est une certaine musique, hein, forcément, j'entends quoi. Et l'efficacité. J'ai besoin que ce soit rapide, que le lecteur ait toujours envie d'aller continuer, d'aller de l'avant, de tourner la page, et aussi qu'il n'y ait pas de fausses notes. Par exemple, il est très difficile dans l'écriture de nommer un sentiment. Il faut le faire sentir. Et comment on fait sentir un sentiment par le dialogue, par la description d'un geste, jamais en le nommant. C'est pas parce que je vous dis que mon personnage est triste que vous sentez sa tristesse. Bon, je peux aussi parfois le dire, mais c'est vraiment important, voilà, qu'il y ait cette sensation. Alors, pour les Parisiens, pour les Français, surtout les Français des jurés littéraires, hein, les membres des jurés littéraires, je n'ai pas une écriture littéraire. C'est une écriture, voilà, qu'on pourrait dire en effet facile. Moi, ça m'est égal. C'est mon écriture, c'est comme ça. Et je la travaille. Elle est spontanée. C'est ma façon d'écrire, mais je travaille énormément. Je travaille surtout à effacer, à couper, à faire très attention à ce que la phrase soit lisse, quoi, à ce que il n'y ait pas de mots en trop, et souvent il en reste quand même des mots en trop. C'est très difficile de faire qu'il n'y ait pas de mots en trop.
Et votre prochain roman
C'est un roman qui se passe en Inde, ce qui est un peu étrange. J'y suis allée seulement une fois. Mais qui m'a donné l'envie d'écrire ce livre. Ce sont des Français en Inde. Mais c'est ce qui m'intéresse, c'est le contraste entre ces Français pris dans leurs histoires, je sais pas, à la fois très psychologique ou très intellectuel, c'est français, très français, et cette Inde immense, cette Inde qui elle est prise dans des conflits de religion et dans cette pauvreté. Donc il y a vraiment une sorte de contraste entre le géopolitique et l'individuel d'autre part, et voilà, j'ai envie d'écrire là-dessus.
Suite du programme en français de Radio Prague, avec maintenant, vous l'attendez toutes et tous, le programme bimensuel, le cours de tchèque bimensuel qui vous est évidemment présenté aujourd'hui une nouvelle fois par notre expert Guillaume Narguet pour le tchèque du bout de la langue.
tchèque du bout de la langue.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
La vie te casse tant de fois la gueule.
Život ti hubu kolikrát nabije.
Telle est une des phrases que l'on entend dans la chanson intitulée
Nesmíš se vzdát.
Tu ne dois pas abandonner du groupe Alcohol et qui va faire l'objet de notre attention pour cette fois. Plus que la phrase en elle-même, c'est le mot
huba,
gueule, qui va plus particulièrement nous intéresser. Comme en français, il s'agit en effet d'un petit mot qui possède différentes significations. En tchèque, le mot gueule,
huba,
peut être employé selon différents sens. Comme en français, il désigne avant tout la bouche de certains animaux, surtout carnassiers. Ensuite,
huba
est utilisé pour indiquer d'une manière plus imagée la bouche humaine. Ainsi, par exemple, pour une personne très bavarde, comme une pipelette, il existe deux expressions similaires. La première,
huba jede, jakoby je namazal,
soit littéralement, elle fait aller sa gueule comme si elle l'avait enduite, graissée. Et la deuxième,
huba jede jako mlejn,
c'est-à-dire elle fait aller sa gueule comme un moulin, expression relativement proche de ce que l'on connaît en français avec un moulin à parole. Toujours dans le même registre, c'est-à-dire l'emploi du mot gueule pour désigner la bouche qui sert à parler ou crier, on pourra encore mentionner les quelques expressions suivantes. Par exemple, l'équivalent tchèque de avoir la bouche cousue ou être muet comme une carpe et
dát si hubu na řetěz
ou
dát si hubu na zámek,
soit mettre, attacher une chaîne ou une serrure à la gueule. Lorsque l'on veut faire attention à ce que l'on dit, à ce qui pourrait sortir de notre bouche, on dira
dát si pozor na hubu,
soit faire attention à sa gueule. De quelqu'un qui parle plus qu'il ne travaille, qui est plus fort en parole qu'en acte, on dira
dělá spíš hubou než rukama,
ce qui traduit mot à mot donne, il en fait plus avec sa gueule qu'avec ses mains. Dans le même ordre d'idées, il existe aussi l'expression
dělá jen hubou,
il ne fait que de la gueule, ce qui signifie que l'accusé en question parle certes beaucoup, mais ne fait rien, ne travaille pas. En français, l'équivalent serait n'avoir que de la gueule, c'est-à-dire se vanter d'être capable d'une action sans jamais passer à l'acte. Et puis en tchèque,
huba
peut bien entendu également désigner la bouche comme l'organe servant à se nourrir. Une fine bouche, une fine gueule, bref, une personne qui aime bien manger sera qualifiée de
mlsná huba,
soit traduit mot à mot gueule friande, gourmande. Comme en français, la gueule peut aussi être considérée comme la figure, le visage. Ainsi, se faire casser la gueule se dit
dostal přes hubu,
soit littéralement recevoir sur la gueule. Enfin, l'équivalent tchèque de l'expression avoir quelque chose sous le nez, c'est-à-dire très près de soi, à portée de main et
mít něco přímo pod hubou,
soit avoir quelque chose juste sous la gueule. Ainsi s'achève donc ce tchèque du bout de la langue consacré aux expressions relatives à la gueule.
Huba.
Et puis pour être complet, terminons encore avec ce que les tchèques appellent parfois tendrement des
hubičky,
diminutifs que l'on pourrait interpréter comme petite gueule. En fait, dans le cas présent, ce mot signifie bisou, petit baiser, puisque baiser en tchèque se dit
pusa,
un terme qui désigne également la bouche. Petit bisou pouvant également se dire
pusinka,
soit petite bouche, on en arrive ainsi donc parfois à
hubička.
Voilà, nous nous quittons donc en vous envoyant de petites gueules. Portez-vous aussi du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Après ce cours de tchèque assez alcoolisé cette semaine, on passe à la littérature, enfin à la rubrique Rencontre littéraire de Václav Richter, consacrée cette semaine à l'opéra. L'enlèvement au sérail est l'opéra grâce auquel le jeune Mozart s'est imposé dans la vie théâtrale viennoise depuis le 7 mai dernier. Cette œuvre figure au répertoire du Théâtre des États à Prague, un monument historique dans lequel Mozart lui-même a dirigé les premières de ses deux opéras, de deux de ses opéras. La mise en scène de cette production est signée Joël Lovers. En cherchant à donner un poids psychologique au personnage de l'enlèvement au sérail, ce metteur en scène belge a découvert de nouvelles significations de leur comportement. Il s'en est confié dans un entretien accordé à Václav Richter à la veille de la première.
Rencontre littéraire.
L'opéra a été créé à l'époque où l'Europe et l'Autriche étaient menacées par les invasions turques, n'est-ce pas? Et finalement, tout cela devait se refléter aussi, dans, je crois, dans la gestation de cet opéra.
Certainement, c'est ce qui a, mais c'est aussi une grande période de l'art, justement orientaliste, où d'un certain côté, il y avait une fascination pour l'Orient, d'un autre côté, il y avait un peu plus ce que j'appellerais une sorte de turquerie, qui était extrêmement moqueuse et où le principe était un petit peu de... Enfin, pas un petit peu, était assez d'être assez raciste et donc de présenter le monde oriental comme mauvais. On le sent dans une Führung, un peu dans un des personnages, mais que Mozart, justement, voulu, et ses lettres le montrent, traiter avec beaucoup de finesse. Et du coup, ça m'a vraiment donner l'envie de ne pas tomber dans cette démonstration négative sur l'Orient ou faire l'inverse, mais je pense que la pièce n'a pas cela comme moteur principal.
Aujourd'hui, souvent, les opéras sont actualisés, sont transposés dans le temps, etc. Est-ce que vous avez fait aussi une production de ce genre ?
Non, je pense que certaines œuvres s'y prêtent, et puis certains metteurs en scène aiment beaucoup faire cela. C'est pas trop mon goût. Moi, je pense que l'œuvre de Mozart, je la trouve d'une modernité incroyable, et que ce n'est pas vraiment la peine de mettre les gens en jeans ou en patins à roulettes pour justement faire ressortir toute la modernité de sa musique et de la psychologie de sa musique.
Qu'est-ce que cet opéra représente pour vous ? Est-ce une comédie, un divertissement, une histoire d'amour ?
Je pense que, justement, chez Mozart, il y a beaucoup de niveaux et beaucoup de richesses, mais on a une histoire finalement assez simple, avec des moments plus détendus, beaucoup de moments tout de même dramatiques. L'histoire est assez dramatique, c'est un enlèvement. Et je pense qu'il y a avant tout, là, caché souvent dans la musique, ou parfois plus évident, une description de l'amour et de toutes ces difficultés. Et par là, je pense que Mozart arrive à nous donner des sensations, des émotions qui sont, je trouve, vraiment tout à fait valables encore de nos jours.
On dirait que votre production, d'après les photos que j'ai vues, est inspirée par la peinture orientaliste du 19e siècle, Ingres par exemple. Est-ce que cette inspiration a été vraiment au début de votre conception ?
Pas, je dirais pas au début, mais très très vite, comme je ne voulais pas traiter de, disons politiquement, d'utiliser cette pièce pour donner une sorte de message politique, mais plus un travail sur la psychologie des gens. Mais on a cherché un environnement. On a beaucoup aimé, entre autres, le travail de Polidori, qui est un photographe très connu, qui adore photographier des endroits détruits. Et comme on partait d'une histoire d'amour de gens qui sont assez détruits, où ça ne marche plus, on est venu un peu l'idée de certains tableaux, et entre autres, oui, Ingres, il y a Boucher aussi, qui sont des grands peints de l'orientalisme, qui surtout aiment beaucoup le clair-obscur, les ambiances feutrées, chaudes, et ça nous a beaucoup inspirés, surtout au niveau esthétique. Oui.
Est-ce que le fait que l'opéra est donné dans le théâtre des États à Prague, le théâtre qui est lié avec Mozart, ou a été donné sous la direction, sous la baguette de Mozart, la première de Don Giovanni, est-ce que tout cela a influencé votre conception? Est-ce que vous avez adapté votre mise en scène un peu à ce théâtre?
Quelque part, très profondément, oui. D'abord, j'ai dit oui tout de suite quand on me l'a proposé, parce que ça se passe une fois. Il faut vraiment accepter tout de suite cette proposition. Et ensuite, au niveau du décor, on a voulu comme faire une sorte de prolongement de cette salle. De ne pas faire une scénographie qui soit tout à fait en rupture avec l'espace. On a essayé de prolonger, de travailler aussi les choses anciennes. Donc il y a une sorte de mariage entre parfois des moments plus modernes, mais également un peu une couleur de musée parfois. Et tout ça nous est venu vraiment en ayant vu la salle et en voulant que ce qui soit sur scène soit comme appartenant à cette salle.
Est-ce que c'est un opéra très exigeant au point de vue de l'action scénique, par exemple? Est-ce que vous avez trouvé à Prague les interprètes qui sont capables de réaliser votre conception?
Oui, j'ai trouvé ces gens qui sont extraordinaires. Mais ça n'a pas voulu dire qu'on n'a pas travaillé beaucoup. Il faut beaucoup, beaucoup de travail. Si on veut arriver à un niveau de jeu, de comédien, et garder une symbiose avec le chant et la difficulté technique du chant, ça demande simplement du travail, ça demande beaucoup de répétition.
Et vous insistez beaucoup sur l'aspect comique de l'opéra?
Non, honnêtement non, parce que je ne trouve pas qu'il soit aussi évident. Je crois qu'il est souvent venu par des traditions d'interprètes, principalement justement le caractère d'Osmine, qui a souvent tendance à être très gros, d'avoir des gros turbans et d'avoir de l'humour souvent un peu pataud. J'ai trouvé que ça déforçait l'œuvre, ça mettait tout de suite une sorte de gros vernis au-dessus de la musique de Mozart. Je pense qu'elle est beaucoup plus fine. Et je pense que l'histoire raconte beaucoup plus de choses problématiques que de grands moments de fou rire. Il y a beaucoup d'instants de jalousie, de souffrance. La situation elle-même est très difficile dans laquelle se trouvent les principaux protagonistes. C'est pas une comédie. Ce n'est pas une comédie où on doit rire à gorge déployée.
C'est donc une œuvre qui a un message que vous aimeriez communiquer, que vous aimeriez dire au public.
L'œuvre est, je pense, déjà une très précise description justement de toutes les difficultés de relations entre les gens. C'est d'ailleurs, je crois, ce qui a toujours attiré Mozart. Il le fait souvent de manière discrète. Il utilise un livret déjà remanié, enfin revisité souvent, déjà fait plusieurs fois en opéra. Et dans la musique, il arrive à décrire ses difficultés. Et je pense que l'œuvre elle-même ne donne pas de morale. C'est un peu semblable à Così fan tutte, où tous les metteurs en scène s'amusent à essayer de deviner quelle est la fin, quels sont les couples qu'on garde, qu'est-ce qui se passe. Et je trouve que l'œuvre elle-même, très clairement, termine très très vite, comme laissant ouvertes beaucoup de possibilités. Moi, ce que j'essaie de construire, c'est surtout que cette œuvre soit un voyage pour ces quatre personnes, pour quatre personnages principaux, qui doivent traverser plusieurs épreuves, traverser plusieurs difficultés, pour, espérons-le, en ressortir grandi. Maintenant, la fin reste très ouverte.
Aujourd'hui, vous vous trouvez à Prague, vous travaillez au Théâtre National de Prague. N'êtes-vous pas tenté, par exemple, par un opéra du répertoire tchèque?
J'ai toujours été tenté, évidemment, par Jana Tchèque, par même des œuvres qui sont moins connues de notre côté, en Belgique, France. Par exemple, Osout, je le prononce très mal, certainement, mais Jana Tchèque est pour moi un compositeur extraordinaire, et je pense que j'ai envie de creuser un peu, parce que je crois qu'il n'y a pas que Jana Tchèque, il doit y avoir beaucoup, beaucoup d'autres compositeurs. Ça m'attire beaucoup, oui, oui.
Et c'est avec cette interview réalisée par Václav Richter avec le metteur en scène belge Joël Lovers que se termine le programme en français de Radio Prague pour aujourd'hui. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Une adresse sur internet pour retrouver Radio Prague, c'est www.radio.cz. Et je vous souhaite une très bonne fin de week-end. À la semaine prochaine. Thank you.
Radio Praga.